Christian Page, salut.
Salut Bernard.
Alors, on finit la semaine avec, avec nos mythes et nos complots.
Oui.
Et là, tu nous proposes de commencer par ce que tu appelles l'autopsie de Roswell.
Oui, donc c'est comment, comment faire du neuf avec du vieux. Donc, ça serait un peu ça l'histoire. Est-ce que tu te rappelles, Bernard, en 1995, il y avait eu à la télé, même ici au Québec, Claire Lamarche avait consacré deux émissions complètes à cette histoire-là. C'était des images en noir et blanc on nous disait que ça avait été tourné en 1947 et que ces images montraient l'autopsie d'un extraterrestre. Est-ce que tu te rappelles
de ça? Non, je ne me rappelle pas de ça.
Alors, j'imagine qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se rappellent de ça. Ça avait vraiment enflammé la presse à travers le monde, ces images. Et puis, évidemment, il y avait toute une controverse autour de ça parce que celui qui était le promoteur de ce film racontait une histoire qui était un peu nébuleuse. Alors, je résume un peu les faits.
Oui, on résume parce que je n'ai pas...
On est en 1993, il y a ce type, un Britannique qui s'appelle Raymond Santilli, qui dirige une petite compagnie de production télé qui s'appelle Merlin Group. Il fait surtout de la production et du recyclage de vieux films, comme les vieux films, par exemple, de Charlie Chaplin, Laurel et Hardy. Bon, tu vois un peu le genre. Il commercialise ce genre de films. Et là, voilà que ce Raymond Santilli raconte qu'il est allé aux États-Unis pour essayer de retrouver des vieux films d'archives montrant Elvis Presley à ses débuts, donc fin des années 50. Et là, il dit, voici, au gré de ses recherches, il est tombé sur un caméraman qui s'était recyclé en caméraman de télévision, qui avait travaillé à des émissions comme le Milton Berle Show, le Ed Sullivan Show, donc des films, des endroits où Elvis Presley était passé. Et au gré de la conversation, le type dit à Raymond Santilli, il dit, tu sais, c'est bien les images d'Elvis, mais quand j'étais dans l'armée, j'ai fait beaucoup plus que ça. J'ai tourné les images de l'autopsie d'un extraterrestre. Alors là, il raconte, et là, je te livre la version que Ray Santilli va donner aux médias. Il aurait raconté à Santilli qu'en 1947, une soucoupe volante s'était écrasée dans le désert de Roswell, au Nouveau-Mexique, que l'armée avait récupéré la machine volante et ses occupants, et que lui avait été chargé de filmer l'autopsie de l'une des créatures. Et là, il dit... J'ai filmé cette autopsie sur plusieurs bobines 16 mm. Ces bobines, une fois développées, je les avais avec moi et l'armée n'est jamais venue les chercher.
Non.
Elle n'a jamais rien.
Oh boy! Le trésor.
Là, tu te dis, ou bien l'armée en ont manqué une, ou bien il faut être très naïf pour croire une histoire comme ça. Quoi qu'il en soit, ce Raymond Santilli dit, j'ai acheté les fameuses bobines de film et là, il les vend. On est rendu à l'été de 1995. Il les vend à travers la planète à toutes sortes de réseaux.
Est-ce qu'il fait beaucoup d'argent avec ça?
À peu près 7 millions de dollars.
Non.
Oui. Il met un embargo sur ces images qui ne peuvent pas être diffusées avant le mois de septembre. Et effectivement, début septembre, les images sont sur tous les réseaux de télévision à travers le monde. Aux États-Unis, on fait un gros spécial, Alien Autopsy. On interroge des pathologistes qui regardent ces images vraies, pas vraies. Claire Lamarche fait un truc là-dessus. Et je me rappelle, à ce moment-là, moi, j'ai participé aux deux émissions de Claire Lamarche. Il y avait les frères Gosselin qui travaillaient à des effets spéciaux, qui étaient bien connus au Québec, qui avaient d'ailleurs refait un petit mannequin en latex pour montrer que finalement, pour quelques milliers de dollars, tu arrivais assez facilement à reproduire des images comme celle-là. Donc, pas nécessairement. On ne pouvait pas crier à l'authenticité sur la foi essentiellement des images. Alors, évidemment, cette affaire-là va faire couler beaucoup d'encre. Et puis, finalement, le chat sort du sac. En 2006, Raymond Santilli avoue que ces images-là ont été tournées finalement dans un petit studio, en fait dans un appartement londonien qui avait été aménagé en studio. Et là, il dit, voilà, c'était un mannequin en latex, on a monté toute l'affaire, il n'y avait rien de vrai là-dedans. Et on va même produire une sorte de film fiction basé sur cette histoire-là de l'autopsie de l'extraterrestre.
Pour faire encore un peu d'argent.
Mais écoute, là où l'affaire rebondit, c'est que ce Raymond Santilli dit, voici, le film était faux, mais c'était basé sur un vrai film.
Ah ouais.
Oh, on s'endort quasiment. Sortons les violons. Il dit, c'était basé sur un vrai film que j'avais acheté, qui montrait bel et bien l'autopsie d'un extraterrestre, mais comme le film avait été mal storé, mal placé au cours des années, mal conservé, la pellicule s'était dégradée à un point tel qu'on ne pouvait plus en tirer un profit commercial. Ces images
Les images étaient fausses, mais l'autopsie était vraie. Fait que dans le fond, l'histoire était vraie.
L'histoire était vraie, donc on a fait un faux film d'une vraie autopsie d'un prétendu extraterrestre. Alors voilà que là, un nouveau joueur sort du sac, et un type qui s'appelle Spiros Millaris, qui lui dit « Écoutez, faut arrêter cette histoire-là. C'est moi qui ai réalisé ce film-là, La demande de Raymond Santilli en 2006, et c'est-à-dire en 95, et le film est entièrement faux. Il n'y a jamais eu de vrai film de l'autopsie de l'extraterrestre. C'est une autre invention de Raymond Santilli. » Alors là, on croyait la saga terminée, mais non! Cette semaine, le Raymond Santilli n'en a jamais terminé. Il a sorti des images complètement floues, noires et blancs, et là, il nous les exhibe comme étant les vraies images du vrai film qui a servi à faire le faux film de l'extraterrestre. Alors aussi, quand on a une poule aux œufs d'or comme celle-là, on abandonne jamais, et Raymond Santilli ne semble pas prêt à abandonner l'histoire. Alors là, depuis quelques jours, il y a ces images noires et blancs. En fait, ce sont quelques images tirées d'un film et qu'on nous exhibe comme étant les vraies images du vrai film de l'autopsie. Mais déjà, les critiques qui ont regardé ces images-là, moi-même, je les ai vues et ça ressemble étrangement à des images de ce qui a déjà été diffusé en 95, mais qu'on aurait simplement rendu plus flou pour ne pas réellement reconnaître les images tournant 95 qui étaient, faut le rappeler, complètement fausses.
OK, puis ce que tu as vu, les images que tu as vues, c'est toujours Santilli qui est derrière ça.
C'est toujours Santilli qui est derrière ça.
Il est fort, le gars.
Écoute, il a déjà engrangé 7 millions de dollars pour avoir vendu ça au restant du monde.
Pourquoi ça aurait été en si bon chemin?
Voilà.
Hein? si on veut faire un autre million.
Quand on a une bonne histoire entre les mains, on la lâche pas aisément.
Hey, sais-tu,
on pourrait faire un truc semblable. Là.
Qu'est-ce que t'en penses?
Écoute, oui.
Hein, on se loue quelque chose, là.
On se fait un petit
film. On se fait un petit studio, là.
Ouais, un peu comme des images de fantômes, des images d'extraterrestres. On dirait qu'on n'a jamais épuisé la réserve. Il y a toujours quelque chose.
Il y a toujours quelques crédules.
Voilà. Et même si tu utilises, moi, par exemple, cette semaine, je fais simplement un aparté là-dessus. Mais il y a des images qui circulent depuis quelques jours qui sont très populaires. Ce sont des images tournées apparemment dans une école en Irlande où on voit, on prétend que c'est des images qui auraient été tournées par une caméra de sécurité qui avait été laissée allumée la nuit. Et on voit, par exemple, une porte au fond du corridor s'ouvrir. On voit des casiers bouger. Il y a un petit panneau qui est placé sur le plancher, le genre panneau, le plancher mouillé. On le voit s'envoler soudainement devant la caméra. Et là, ces images-là en sont rendues à des centaines de milliers de vues là, depuis une semaine. Et les gens crient bien sûr à une histoire de fantôme. Mais quand on fouille un peu, il suffit simplement de gratter pour voir que l'école annonce depuis quelques jours une activité ludique pour la fin du mois avec les enfants de l'école. Quand on regarde la hauteur où ces images ont été tournées, on voit bien que ces images-là n'ont pas été tournées par une caméra de sécurité, mais d'un point de vue beaucoup plus bas, comme par exemple une caméra sur un trépied, que les casiers qui bougent sont placés devant des fenêtres, donc accessibles par l'extérieur, par derrière.
Spécial Halloween.
Voilà, t'as tout compris. Mais les gens sont crédules et veulent croire que ces images sont authentiques.
Et comme il nous reste d'autres histoires, on va prendre une pause parce qu'on revient dans un instant. Alors, de retour avec Christian Page pour les mythes et complots. Là, tu nous transportes en Argentine. C'est bien ça?
Oui.
À 300 kilomètres de Buenos Aires.
Voilà.
Je suis déjà allé là, d'ailleurs. J'étais allé sur un ranch.
OK. Et là, on est dans les mêmes eaux puisqu'on est aussi sur des ranchs. Et en fait, ça se passe dans une petite localité qui s'appelle General San Martin. Mmh. Et tu vois, on a trouvé au cours du week-end, on a trouvé une vache mutilée. Est-ce que le phénomène des mutilations animales te sonne quelque chose?
Non.
C'est très populaire lié aux ovnis. C'est un phénomène qui est né dans les années 60 où on associe des animaux mutilés retrouvés sur des fermes dont les conditions sont tellement particulières que certains n'hésitent pas à accuser les extraterrestres de s'être livrés à ces mutilations fantômes.
Pourquoi? Parce qu'ils s'en nourriraient?
Ouais, on ne sait pas trop la motivation, mais dans ce cas-là, par exemple, si on parle de cet animal retrouvé à General San Martin, c'est la cinquième trouvée dans cette localité depuis le mois de septembre.
La cinquième vache?
La cinquième vache.
Mutilée?
Oui, l'animal est donc retrouvé sur son flanc. L'animal a été amputé d'un œil, de la langue, les organes génitaux, l'anus. Et souvent, ces ablations semblent avoir été faites avec un scalpel. Elles sont presque chirurgicales. Et même, dans certains cas, on a noté des marques de cautérisation.
OK, alors, mais pourquoi ça ne pourrait pas être un vétérinaire plutôt qu'un extraterrestre?
Mais qui s'amuserait à aller la nuit mutiler des animaux dans des fermes sur des ranchs? Et pourquoi voler des organes en particulier? Okay. Alors, évidemment, tu te dis pourquoi? pourquoi voler un pied de vache? Est-ce qu'il y a des gens qui s'amuseraient à voler un pied de vache?
Mais pourquoi faut-il que ce soit un petit bonhomme vert?
Peut-être que sur leur planète, les portefeuilles en peau de pied de vache, c'est peut-être très demandé. Ah! Alors, quoi qu'il en soit, voilà, on en est où, à la cinquième vache mutilée de cette manière-là. Et là, tu comprends, il y a comme une sorte de folie qui s'empare de la communauté. On exige des autorités une investigation. Les autorités font la sourde oreille.
Pourquoi?
En disant, écoutez...
Seraient complices, les autorités, des extraterrestres?
Peut-être, à moins qu'elles ont d'autres références. Et les autres références, il faut savoir que le gouvernement argentin, il y a une vingtaine d'années, il y avait eu une série de mutilations animales. Et le gouvernement argentin avait fait une enquête là-dessus et avait conclu que ces mutilations, en fait, étaient l'œuvre de petits rongeurs qu'on retrouve, par exemple, dans les champs, qui ressemblent à des rats de champ, comme ici, on a des mulots. Là-bas, ils ont une espèce qui ressemble à ça et qui pourrait se livrer à ce genre. Donc, là, tu comprends, l'animal meurt.
Ah, tombe, l'animal meurt.
L'animal meurt.
Ah, OK, c'est pas le rongeur qui saute dessus et qui tue l'animal.
Non,
ben,
et
déjà.
Les rongeurs vont s'occuper des mutilations. Et tu sais qu'une enquête semblable avait été menée aux États-Unis en 1980 à la demande du gouverneur de l'État du Nouveau-Mexique. Et le FBI avait mené l'enquête et avait conclu, là aussi, que ces mutilations, même si elles paraissent pour un néophyte extraordinaire, elles sont très souvent l'œuvre d'animaux charognards.
Bon, alors, parlant d'animaux charognard.
Oui.
Tu vois le lien que je fais?
Oui, on va parler des extraterrestres, en fait.
Oui, mais en fait, de ces pseudo-révélations de Tom DeLonge. Je pense que tu nous en avais parlé.
Tom DeLonge, oui, je l'avais parlé. Écoute, Tom DeLonge, est-ce que tu connais le groupe Blink-182?
Ah, ça me dit quelque chose. Oui.
Ah, ça, c'est un petit
c'est lui, ça?
Ça, c'est Tom DeLonge.
Il chante?
Oui, c'est un chanteur. Il appartenait au groupe Blink-182.
Ah, mais c'est une bonne tune, ça.
Et il y a quelques années, il a quitté la formation musicale. Évidemment, sa courte carrière musicale l'a mis à l'abri du besoin financier. Et il a pu, comme ça, se livrer à sa passion première. Et sa passion première, ce sont les ovnis.
Oh, il aurait été mieux peut-être de rester en musique.
Alors, depuis quelques années, Tom DeLonge nous raconte et dit, avec mon argent et ma célébrité, il a pu rencontrer des gens, avoir des rencontres. Mais c'est souvent l'homme qui a vu l'ours. Hein. J'ai rencontré des gens dont je ne peux pas vous révéler l'identité. Ils m'ont dit des choses que je ne peux pas vous dire. Et ces réunions ont eu lieu à des endroits que je ne peux pas vous révéler. Donc, c'est toujours à peu près la même chose. Et ce printemps, Tom DeLonge nous dit, j'ai des révélations. Ça, dans d'ici 90 jours, je vais faire une révélation. Révélation, finalement, qu'il a fait il y a quelques jours, quelques mois finalement plus tard, dans la région de San Diego. Il annonce la création d'un groupe qui s'appelle « To the Star Academy of Art and Science ». Donc, pas de révélation sur les extraterrestres, mais la création d'un groupe qui vont investir des sous pour faire de la recherche scientifique sur des sujets marginaux, comme les ovnis. Elle va également travailler dans le domaine du divertissement et, évidemment, dans le domaine de l'éducation. Donc, cette organisation va travailler à trois niveaux pour faire un peu préparer les gens à ces histoires d'extraterrestres ou de sciences marginales. Donc, aucune révélation sur les extraterrestres eux-mêmes comme on l'attendait. Mais je dois t'avouer, Bernard, que quand il a annoncé les gens qui travaillaient sur le panel avec lui, là, j'étais à la renverse. Il a nommé des gens, un type qui s'appelle Jim Chemivan, qui est un ancien agent de la CIA, Al Potoff de l'université Stanford, qui était le père fondateur du projet Stargate, Steve Justice, un type qui travaillait pour le groupe Lockheed Martin's Work, Louis Elizondo au département de la défense, Chris Millen, qui a travaillé sur le Senate Intelligence Committee.
Et comme il nous reste 20 secondes, ça finit comment cette affaire-là?
Écoute, on ne sait pas trop c'est quoi, mais c'est vrai que les gens qui siègent avec lui sont des gens importants qui ont de très impressionnants CV. Alors, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se cache derrière ça?
OK, donc ça continue.
Oui,
le suspense se
maintient. Pas de révélation sur les extraterrestres, mais un extraordinaire comité de travail.
Oh boy! Ça s'appelle faire durer le plaisir.
Absolument. Donc, c'était la révélation de Tom DeLonge cette semaine.
C'est un peu décevant, mais bon, avec ce super comité, peut-être qu'il va nous arriver avec de grandes trouvailles.
Espérons-le.
En attendant, on te remercie à nouveau,
merci.
Christian Page. J'en profite pour remercier Maryse, François et Larry qui ont collaboré à cette émission qu'on vous a présentée, chers auditeurs. Le Québec maintenant avec Paul Oud s'en vient. Allez tout le monde, à la semaine prochaine.